Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les titres de ce journal, la ville d'Uvira est plongée dans une psychose généralisée depuis ce matin. Des actes de pillage et de torture attribués à un groupe de militaires et de Wazalendo indisciplinés sèment la terreur parmi la population. Détails dans quelques instants. Suspension provisoire dès ce 25 février de la circulation alternée sur certaines artères de la ville province de Kinshasa, telle que décidée par le gouvernement congolais en octobre dernier. C'est après une évaluation approfondie des effets de cette mesure sur la fluidité du trafic dans la capitale, indique un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur. Notre invité est Miran Moulumba, coordonnateur national de l'Association nationale des victimes au Congo, ANVC. Il nous parle de la collecte des preuves des exactions commises à l'est de la RDC, opération lancée sur appel du bureau du procureur de la Cour pénale internationale qui enquête sur les violences survenues à Goma et ses environs. Bienvenue à cette session d'actualité sur Radio Kapi. Depuis ce matin, la ville d'Uvira est plongée dans une psychose généralisée. Des actes de pillage et de torture attribués à un groupe de militaires et de Wazalendo indisciplinés sèment la terreur parmi la population. Pendant ce temps, les rebelles M23 et leurs alliés rwandais poursuivent leur progression. Hier soir, ils ont pris le contrôle de la cité de Sangé, située à environ 30 km de la ville d'Uvira. Rachel Kiesé.
Après la chute de la ville de Bukavu le week-end dernier, plusieurs agglomérations stratégiques sont tombées en quelques jours. En moins de 48 heures, Kamanyola et Sangé sont passées sous le contrôle des rebelles. Désormais, Uvira est directement menacée par la progression du M23. Mais au-delà du front militaire, la ville est en proie à une montée alarmante des violences. Pillages, tortures et exactions en tout genre. Ce matin, l'évêché d'Uvira a été saccagé, le prêtre et l'évêque ont été violentés et dépouillés de leurs biens, notamment de leur téléphone et de leur argent. Des magasins, des boutiques et même des maisons d'habitation ont été pris pour cible par des groupes armés non contrôlés. Face à cette situation chaotique, les autorités locales et les acteurs de la société civile avouent être dépassés par les événements.
Restons au sud Kivu, où l'un des principaux seigneurs de guerre dans les hauts plateaux de Fizi, Makanika, de son vrai nom Michel Rukunda, a été tué hier dans des bombardements aériens de FRDC. Nos sources dans la région confirment l'information et précisent que Makanika a péri avec ses proches collaborateurs de son état-major. Sud Kivu toujours, la Croix-Rouge du Congo a procédé à l'enterrement des corps des victimes des violences qui ont secoué la ville de Bukavu le week-end passé. Ces corps ont été ramassés dans les rues de Bukavu par les volontaires de la Croix-Rouge et gardés à la morgue des cliniques universitaires de Bukavu. Les 18 corps reposent désormais au cimetière de Musigiko dans la commune de Bagira à Bukavu. Pendant ce temps, dans le territoire de Lubero, une accalmie s'observe ce jeudi matin sur toutes les lignes des fronts. C'est après deux jours d'affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda et le FRDC appuyé par le Wazalendo. Des combats qui se sont déroulés mardi et mercredi à Alimbongo, Ndoluma, Mambasa, Lumbango, Kasima et Katondi à une trentaine de kilomètres de Lubero centre. L'armée a réussi à repousser l'ennemi sur plusieurs lignes des fronts. Cependant, elle appelle les soldats qui ont fui les combats et qui errent dans Lubero centre à regagner au plus vite les fronts pour défendre la patrie. Le colonel Mac Azukai, porte-parole des opérations militaires dans le Grand Nord, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Je demande à tous les militaires qui ont quitté les lignes de front et qui errent dans le centre de Lubero et de ses environs de regagner au plus vite possible les lignes de front où se trouve leur commandant. Un soldat ne s'isole pas de ses compagnons, un soldat ne fuit pas seul, mais il se déplace avec ses compagnons et ses chefs. Nous avons frappé l'ennemi, nous avions reçu l'appui des avions de guerre qui nous ont appuyés et les opérations se poursuivent. L'ennemi a été chassé. Et pourquoi quitter les lignes de front? L'ennemi était venu nous provoquer. Nous devons endurer et poursuivre avec les opérations. Tu viens de très loin, de l'Équateur, de Kasaï, de Bandundu, de la province orientale que nous appelons Tchopo. Tu viens de Ouélé, de Katanga. Tu es là au service de la nation. Nous devons continuer avec les opérations. Nous devons défendre la patrie, protéger notre population et ses biens.
En Ituri, la situation humanitaire reste préoccupante pour environ 10 000 personnes composées essentiellement de déplacés de Djaïba et des habitants proches de Fataki dans le territoire de Djougou. Elles n'ont pas de vivres ni de médicaments. Leurs champs sont également occupés par les miliciens de la CODECO, groupe armé qui menace ceux qui tentent d'y accéder. Conséquence, la vie est devenue intenable pour ces sinistrés qui sollicitent une aide d'urgence. Reportage d'Isaac Remoyope rendu par Ezekiel Mouzalia.
Les déplacés du site de Djaïba et les habitants des localités voisines, notamment Lodja, Lindou et Fataki, qui ont été la cible d'attaque de la milice CODECO, ne sont pas libres de tout mouvement au-delà des 2 km. Certains se faufilent pendant la journée dans leur maison pour chercher des vivres récoltés avant le drame. Ceux qui se rendent au champ sont tués ou menacés de mort, ce qui rend la vie difficile à ces milliers de personnes. L'une d'elles témoigne.
Pendant la journée, ils attendent vers les Rekwela, là où il y a les chats. Vous venez directement, on saute sur vous, vous êtes tué. Vous ne pouvez pas directement descendre là où il y a l'eau là-bas. La rivière là-bas, vous ne pouvez pas venir. C'est peut-être très compliqué. Il faut leur patrouille pendant la nuit. Déjà à partir de 20h, 21h, partout, j'ai eu ici. C'est quoi de qui contrôle pendant la nuit?
Ces déplacés déplorent le pillage de leurs produits des champs par les miliciens. Ils lancent une alerte pour une aide d'urgence.
Ils ont chargé leur véhicule là, qui évacue les produits des champs tels que le maïs. Ces assassins sont toujours quelque part là. On ne peut pas avancer. Si tu avances d'ici un kilomètre, tu te rencontres avec les gens là. Qui ne vont pas te laisser. C'est ça qui donne la peur à la population de Djaïba.
Des centaines de familles ont fui à Bounia, Iga Barrière ou Lopa, où elles se débrouillent pour la survie. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation sécuritaire en RDC hier à New York. La situation s'est détériorée depuis la prise de la ville de Goma par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Des morts et de nombreux blessés ont été enregistrés alors que d'autres personnes sont menacées de représailles. C'est ce qu'a déclaré Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, lors de son intervention à cette réunion du Conseil de sécurité. Une autre intervention est celle de la chef de la diplomatie congolaise. Thérèse Kayikwamba Wagner a dénoncé les exactions enregistrées dans le territoire occupé par le Rwanda et ses alliés du M23. Blaise Shindani Kambala revient sur cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité.
Prenant la parole au cours de cette réunion d'urgence, la chef de la MONUSCO s'est apesantie sur la situation qui s'est détériorée depuis la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Bintou Keïta a affirmé que le M23 empêche à la MONUSCO à réapprovisionner en eau et autres produits de première nécessité les troupes de la SADC. Bintou Keïta.
Depuis la prise de Goma, le M23 impose de sévères restrictions sur la liberté de mouvement de la MONUSCO, empêchant les efforts visant à évaluer les dégâts à l'aéroport de Goma et à aider à l'élimination en toute sécurité des munitions non explosées dans la ville.
Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères, quant à elle, a affirmé devant le Conseil de sécurité que le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert en RDC.
Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Mounzenze.
La chef de la diplomatie congolaise a regretté que, malgré toutes les dénonciations de l'imposition d'une administration criminelle des terroristes sous le regard du Conseil, ce Conseil qui observe, ce Conseil qui condamne, mais ce Conseil qui n'agit pas, a-t-elle conclu?
Guerre d'agression, une délégation congolaise composée du député Lambert Mende, de ministre Julien Paluku et Alexis Guissaro ainsi que de Sambou Mambou, mandataire du chef de l'État Félix Tshisekedi, a été reçue hier mercredi à Nairobi au Kenya par le président William Ruto, chef de l'État kenyan et président en exercice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Alain Irung nous en dit plus.
En tant que président de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, j'ai reçu une délégation de haut niveau du président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo pour discuter de l'escalade de la situation dans l'Est de la RDC, indique le président kényan sur son compte X. Nous avons discuté des options sur la voie à suivre telles que convenues lors du sommet conjoint de l'EAC-SADC à Dar es Salaam en Tanzanie et de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, a indiqué William Ruto. Par ailleurs, les États-Unis d'Amérique se sont dit disposés à utiliser tous les leviers diplomatiques contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré hier mercredi son ambassadrice accréditée à Kinshasa, Lucie Tamlin, au sortir de l'audience lui accordée par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais.
Le M23 AFC appelé à cesser immédiatement leur offensive et à se retirer de l'ensemble des territoires dont ils ont pris les contrôles, y compris la ville et l'aéroport de Goma. Cet appel est du groupe des contacts internationaux pour la région de Grand Lac. Il réunit les représentants de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l'Union européenne. Dans un communiqué de presse du 19 février, ces États condamnent cette offensive continue du M23 de l'Alliance Fleuve Congo et de la Force de défense rwandaise dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Billy Van Lutumba pour d'autres détails.
Le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs présidé par l'Allemagne condamne la prise récente de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu. Ces États demandent à la force de défense rwandaise de se retirer sans plus attendre de la RDC. Ils recommandent que cesse immédiatement tout soutien direct ou indirect aux groupes armés par l'ensemble des partis. Dans la suite des condamnations, le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs désapprouve avec la plus grande fermeté les violences graves du droit international humanitaire et des droits humains dans les deux provinces. Il souligne qu'il est impératif que l'intégralité des accusations des violences et d'abus fassent l'objet d'enquêtes approfondies. Les victimes doivent être reconnues et soutenues, les responsables répondre de leurs actes. Les allégations des niveaux élevés des violences sexuelles sont plus inquiétantes et il en prend note. Ces États soutiennent que l'accès humanitaire doit être garanti sans délai et ni condition. D'après eux, il ne saurait y avoir des solutions militaires au conflit et appellent les partis à donner la priorité à un engagement diplomatique et politique. D'où leur soutien au processus politique conduit par les pays africains et établi par les processus de Luanda et de Nairobi. C'est dans cette optique qu'ils déclarent appuyer pleinement l'appel lancé le 14 février 2025 par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA à une reprise immédiate des négociations et du dialogue avec l'ensemble des parties étatiques et non étatiques dont le M23 dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi.
Dès ce 25 février, il n'y a plus de restrictions de circuler à sens unique sur certaines artères de la ville-province de Kinshasa, telles que décidées par le gouvernement congolais en octobre dernier. C'est ce qui ressort d'une réunion présidée mercredi 19 février par le ministre de l'Intérieur en compagnie du ministre des Transports, du gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que le représentant de la police et des services techniques du ministère des Transports, dont la Commission nationale de prévention routière, CNPR, Billy Ivan Lutumba.
Il s'agit d'une suspension provisoire de la mesure de circulation alternée sur les avenues Ngouma, Tourisme, Mondjiba et Poilou dès le 25 février prochain. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie des effets de cette mesure sur la fluidité du trafic dans la capitale, précise un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur. À cet effet, une commission du gouvernement central est mise en place pour appuyer l'administration provinciale dans la gestion de la mobilité urbaine. L'objectif étant de mettre en œuvre des solutions structurelles et durable afin de désengorger les principaux axes routiers de la ville, peut-on lire. La suspension de la circulation alternée constitue une mesure transitoire en attendant des solutions plus globales pour répondre aux défis de mobilité de la capitale. Signalons que cette mesure de suspension de la circulation alternée sur certaines artères de Kinshasa survient alors que déjà sur terrain, les restrictions à sens unique ne sont plus observées depuis quelques semaines déjà au grand désarroi de certains usagers, notamment sur avenue Ngouma et tourisme.
Au Kasaï oriental, des centaines de jeunes des Mbujimayi et des Mweneditu ont répondu favorablement ce mercredi à l'appel à l'enrôlement dans les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le vice-premier ministre de la Défense qui a présidé la cérémonie de recrutement massif des jeunes sur les boulevards Laurent-Désiré Kabila en présence de la vice-ministre de l'Intérieur, de plusieurs autorités et de la population. Esther Ndalafina pour le reportage.
Guy Kabombo Mwadiavita, vice-ministre de la Défense, s'est adressé à ses nouvelles recrues en ces termes.
Dès ce soir, on va bien vous nourrir. Vous allez bien dormir. Ceux qui ont déjà été consultés et ceux qui se sont déjà fait inscrire, écoutez, dès que je quitte ici, j'enverrai des avions pour vous amener dans différents centres de formation et aussi, avant de quitter, vous aurez l'argent pour laisser dans vos familles.
très déterminé, les nouvelles recrues ont demandé au vice-premier ministre de la Défense d'organiser leur départ dans les centres de formation.
Nous avons beaucoup traîné. Nous voulons partir même dans 2 jours. Nous voulons soutenir le Congo et nous rappelons que vous nous avez promis le savon. Nous continuons d'attendre, n'est-ce pas, cher ami?
Ayant appris les bonnes conditions de vie mises à la disposition de ces nouvelles recrues, d'autres jeunes venus comme spectateurs à la manifestation se sont fait raser la tête et se sont décidés immédiatement de servir le pays sous les drapeaux. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Les attaques des États-Unis à l'encontre de l'Afrique du Sud pourraient être l'occasion pour d'autres blocs de resserrer leurs liens avec les pays. C'est ce qui s'est dessiné lors d'une rencontre entre la chef de la diplomatie européenne et son homologue sud-africain mercredi 19 février dans la ville du Cap. Les deux représentants ont notamment pu échanger autour de la guerre en Ukraine, alors que l'Union européenne tente de ne pas se faire marginaliser dans les négociations.
L'invité.
L'Association nationale des victimes au Congo, ANVC, a lancé il y a 3 semaines la collecte de preuves des exactions commises dans l'est du pays. Invité de Radio Okapi, le président de cette structure, Miran Mulumba, affirme mener cette opération sur appel du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, CPI, qui enquête sur les violences survenues à Goma et ses environs. Miran Mulumba s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
L'Association nationale des victimes du Congo a annoncé vouloir apporter des preuves des atrocités commises dans l'est du pays pour répondre à l'appel de la Cour pénale internationale. En ces jours, où en êtes-vous avec cette opération?
Merci. Comme vous le savez exactement, que ça fait pratiquement plusieurs semaines que la partie orientale de la République démocratique du Congo vit dans une insécurité laquelle introduise plusieurs victimes des violations systématiques des droits de l'homme, mais pourquoi pas aussi du droit international humanitaire. Voilà pourquoi l'ANVC s'est livrée, ça fait pratiquement plusieurs semaines, à pouvoir documenter, à pouvoir collecter les différents témoignages, certaines vidéos de toutes ces exactions qui ont été perpétrées dans cette partie de la République avec l'entrée. Donc il était plus important pour nous de pouvoir répondre à l'appel du bureau du procureur parce que vous savez que l'Association nationale de victimes étant une structure, une organisation qui fait la promotion, la défense et la protection des droits des victimes de violences sexuelles liées au conflit et les victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Tous les éléments importants, notamment les témoignages, notamment les vidéos, et notamment les différents massacres le perpétrés comme récemment dans cette partie du pays, dans le Nord Kivu et à Bukavu. Nous enregistrons plus de 500 morts et plus de 30 femmes victimes de viol et plus de 500 hommes torturés qui ont subi des traitements cruels, inhumains et dégradants.
Ça, c'est juste à Bukavu où vous parlez du Nord et du Sud Kivu?
Je parle de Nord Kivu et de Sud Kivu. Il y a eu toutes ces exactions et toutes ces violations massives du droit de l'homme.
Depuis l'entrée des rebelles du M23 dans ces deux provinces, l'ANVC a eu déjà à recenser combien de cas de violations du droit de l'homme?
Nous avons recensé, pour bien le dire, plusieurs cas de violations systématiques du droit de l'homme. Il y a eu des tueries, il y a eu des viols, il y a eu des tortures, il y a eu des pillages. Et aussi, tous ces actes de cruauté ont produit comme conséquence le déplacement massif de plusieurs compatriotes. Mais vous imaginez, on peut même que certains compatriotes qui étaient dans les différents camps. Allez-y, dans tout ce camp, il n'y a presque rien. On a incendié tout ce camp. Cette population vit dans des conditions pitoyables. Quoi ? L'ANVC, saluant exactement la procédure initiée par le bureau du procureur pour devoir œuvrer ensemble avec notre organisation, parce que vous le savez exactement que la justice joue un rôle préventif.
Comment vous procédez pour avoir ces témoignages auprès des victimes ou familles des victimes?
C'est vrai actuellement que plusieurs victimes vivent dans un état de psychose, mais cela n'exclut pas au regard de droits reconnus aux victimes de pouvoir dénoncer. Donc nous avons eu à réunir une poignée d'individus parce que nous venons de vous rappeler que nous avons déposé une liste de témoins. Donc, des témoins qui ont subi les faits. Donc, ce sont ces témoins que nous avons appelés de manière isolée, de peur qu'ils ne puissent pas encore être victimisés bien entendu, de la prestation de ce mouvement de M23 et de l'AFC. Donc, ils ont été isolés. Nous avons recueilli, bien entendu, leurs témoignages. Et tous ces éléments nous ont permis à pouvoir étoffer notre dossier et d'opposer, bien entendu, à cette instance judiciaire internationale.
L'ANFC bénéficie-t-elle des moyens de sa politique pour bien mener cette opération?
Il est vrai que le moment est très très compliqué, mais parce qu'il s'agit bien entendu de notre cause personnelle, nous n'avons pas de choix si ce n'est que nous surpasser. Nous sommes déterminés par rapport aux maigres moyens dont nous disposons, dans l'espoir que nous puissions fournir tout ce qu'il faut pour que demain les responsabilités soient bien établies, que les auteurs intellectuels répondent vigoureusement de leurs actes et qu'ils soient expiés conformément aux normes internationales et que toutes les victimes de la partie orientale de notre pays soient bien entendu remises dans leur rôle.
Avez-vous quelques difficultés dans la mise en œuvre de ces travaux, des collectes?
Conformément à la nouvelle loi portant protection des défenseurs du droit de l'homme, il est plus important pour que la communauté internationale, pourquoi pas aussi d'autres organisations qui font la promotion et la défense du droit de l'homme, puissent y veiller scrupuleusement pourvu que le droit reconnu aux défenseurs du droit de l'homme soit suffisamment protégé, parce que à l'heure actuelle, dans la partie orientale de notre pays, nous vivons dans une psychose au point que certains droits reconnus sont bafoués dans la partie orientale de notre pays.
Monsieur Miran Moulumba, nous vous disons merci.
Merci.
Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Radio Okapi, mise en onde par Polydor Basunga, préparée par Alain Rung et Blaise Shindani Kambala. Patience Ngalou Lambombo était à la présentation. Merci à vous tous de nous avoir suivis.